Chambre de commerce et d'industrie de Paris.
Diplôme de français médical.
Compréhension orale. Partie 1. Vous allez entendre 5 communiqués de santé provenant de différents services hospitaliers. Vous devez indiquer de quel service A à H proviennent ces communiqués. Pour chaque question 1 à 5, cochez sur la fiche la réponse A à H qui vous paraît exacte. Vous allez entendre ces informations 2 fois. Vous avez 20 secondes pour lire les questions 1 à 5. Question 1.
Monsieur Dupont a été hospitalisé en fin de matinée à l'hôpital Pasteur pour douleurs abdominales aiguës. Les examens pratiqués ont fait ressortir l'existence d'une inflammation de la vésicule biliaire. Il devrait être opéré dans l'après-midi. Question 2.
L'examen clinique et les premiers examens pratiqués ont confirmé les anomalies sanguines. Le nombre de globules blancs est élevé et le nombre de plaquettes bas. Ces examens ont toutefois permis d'éliminer le diagnostic de leucémie. Un premier traitement administré au malade a apporté en 72 heures une amélioration de l'état général, mais des examens complémentaires vont être effectués étant donné la perturbation de certaines constantes biologiques. Question 3.
L'état de santé de M. Martin s'est dégradé de façon alarmante depuis 3 jours à la suite d'une complication pulmonaire. Sous l'influence du traitement et avec la possibilité d'instauration d'une dialyse rénale, l'altération des principaux organes a cessé de progresser. Le malade, placé sous assistance respiratoire, présente un état général qui rend le pronostic vital très réservé. Question 4.
Madame Durand a été victime d'un petit accident vasculaire cérébral non évolutif ayant entraîné un léger trouble de la vision. Malgré cette atteinte très localisée, une hospitalisation d'une semaine sera nécessaire pour faire un bilan plus large des artères. Question 5.
Madame Dupré vient d'accoucher de triplés nés avant terme. Dès leur naissance, les 3 bébés ont été placés en couveuse. Leur état de santé n'inspire aucune inquiétude.
Deuxième écoute de la partie 1. Question 1.
Monsieur Dupont a été hospitalisé en fin de matinée à l'hôpital Pasteur pour douleurs abdominales aiguës. Les examens pratiqués ont fait ressortir l'existence d'une inflammation de la vésicule biliaire. Il devrait être opéré dans l'après-midi. Question 2.
L'examen clinique et les premiers examens pratiqués ont confirmé les anomalies sanguines. Le nombre de globules blancs est élevé et le nombre de plaquettes bas. Ces examens ont toutefois permis d'éliminer le diagnostic de leucémie. Un premier traitement administré au malade a apporté en 72 heures une amélioration de l'état général, mais des examens complémentaires vont être effectués étant donné la perturbation de certaines constantes biologiques. Question 3.
L'état de santé de M. Martin s'est dégradé de façon alarmante depuis 3 jours à la suite d'une complication pulmonaire. Sous l'influence du traitement et avec la possibilité d'instauration d'une dialyse rénale, l'altération des principaux organes a cessé de progresser. Le malade, placé sous assistance respiratoire, présente un état général qui rend le pronostic vital très réservé. Question 4.
Madame Durand a été victime d'un petit accident vasculaire cérébral non évolutif ayant entraîné un léger trouble de la vision. Malgré cette atteinte très localisée, une hospitalisation d'une semaine sera nécessaire pour faire un bilan plus large des artères. Question 5.
Madame Dupré vient d'accoucher de triplés nés avant terme. Dès leur naissance, les trois bébés ont été placés en couveuse. Leur état de santé n'inspire aucune inquiétude.
Fin de la partie 1. Vous avez 10 secondes pour contrôler vos réponses.
Partie 2. Vous allez entendre un médecin donner des directives à son équipe médicale. Vous devez indiquer quel est l'objectif de chacune de ces 5 interventions. Pour chaque question 6 à 10, cochez la réponse A à H qui vous paraît exacte. Vous allez entendre ces interventions 2 fois. Vous avez 20 secondes pour lire les questions 6 à 10. Question 6.
Étant donné la baisse probable des leucocytes après les séances de chimiothérapie, son système immunitaire est affaibli. Rappelez encore à la patiente qu'elle surveille bien sa température, qu'elle porte des gants pour ses travaux de jardinage et qu'elle évite les contacts avec les personnes présentant une pathologie infectieuse.
Question 7.
Je viens de voir Madame Dupont. Elle est très angoissée. Sa tension artérielle est encore très élevée cet après-midi. Elle appréhende la ponction lombaire de jeudi. Ça fait 2 jours qu'elle est tétanisée par la peur. Expliquez-lui le déroulement de cette intervention. Dites-lui qu'elle aura une petite anesthésie locale et qu'elle n'aura aucune complication. Elle ne peut pas rester dans cet état-là.
Question 8.
Madame Durand va beaucoup mieux. Nous ferons un dernier bilan jeudi et selon les résultats qui devraient être bons, elle pourra partir chez elle vendredi. N'oubliez pas de rédiger son compte-rendu d'hospitalisation et de prescrire le traitement à suivre.
Question 9.
La patiente qui souffre de l'œdème du poumon, comment évolue-t-elle? Est-ce que le traitement commence à faire effet? Surtout, n'oubliez pas de prendre son pouls, sa tension et son rythme respiratoire. Vérifiez si elle se plaint de douleurs respiratoires.
Question 10.
L'intervention de Madame Dubois est programmée après-demain à 8h. Le bilan préopératoire se fera demain. Je vous demande donc de rassembler toutes les données. Avez-vous reçu les résultats de l'IRM cérébrale et de la coronarographie? Deuxième écoute de la partie 2.
Question 6.
Étant donné la baisse probable des leucocytes après les séances de chimiothérapie, son système immunitaire est affaibli. Rappelez encore à la patiente qu'elle surveille bien sa température, qu'elle porte des gants pour ses travaux de jardinage et qu'elle évite les contacts avec les personnes présentant une pathologie infectieuse.
Question 7.
Je viens de voir Madame Dupont. Elle est très angoissée. Sa tension artérielle est encore très élevée cet après-midi. Elle appréhende la ponction lombaire de jeudi. Ça fait 2 jours qu'elle est tétanisée par la peur. Expliquez-lui le déroulement de cette intervention. Dites-lui qu'elle aura une petite anesthésie locale et qu'elle n'aura aucune complication. Elle ne peut pas rester dans cet état-là.
Question 8.
Madame Durand va beaucoup mieux. Nous ferons un dernier bilan jeudi et selon les résultats qui devraient être bons, elle pourra partir chez elle vendredi. N'oubliez pas de rédiger son compte-rendu d'hospitalisation et de prescrire le traitement à suivre.
Question 9.
La patiente qui souffre de l'œdème du poumon, comment évolue-t-elle? Est-ce que le traitement commence à faire effet? Surtout, n'oubliez pas de prendre son pouls, sa tension et son rythme respiratoire. Vérifiez si elle se plaint de douleurs respiratoires.
Question 10.
L'intervention de Madame Dubois est programmée après-demain à 8 heures. Le bilan préopératoire se fera demain. Je vous demande donc de rassembler toutes les données. Avez-vous reçu les résultats de l'IRM cérébrale et de la coronarographie? Fin de la partie 2. Vous avez 10 secondes pour contrôler vos réponses.
Partie 3. Vous allez entendre 4 communications provenant de lieux différents. Il vous est proposé 2 affirmations concernant chaque communication. Vous devez indiquer si ces affirmations sont vraies ou fausses. Si ce que vous entendez ne donne pas suffisamment d'informations pour répondre « vrai » ou « faux », choisissez « non précisé ». Pour chaque question 11 à 18, cochez sur la fiche la réponse A, B ou C qui vous paraît exacte. Vous avez 30 secondes pour lire les questions 11 à 18. Question 11-12. Chez le généraliste.
Bonjour, madame.
Bonjour, docteur.
Asseyez-vous. Avez-vous votre carte vitale?
Oui, la voici.
Merci. Qu'est-ce qui vous amène?
J'ai des quintes de toux depuis plusieurs jours et j'ai l'impression d'avoir une pointe dans le dos.
Vous avez de la fièvre?
Non, je ne crois pas. Mais en fait, je ne l'ai pas prise.
Est-ce que c'est la première fois que cela vous arrive?
Non. J'ai déjà eu cela il y a 2 mois et vous m'aviez prescrit un expectorant.
Est-ce que vous fumez toujours?
Oui. Environ 15 à 25 cigarettes par jour.
Est-ce que c'est la fumée qui déclenche votre toux?
Non, pas vraiment. Je suis restée avec un gros rhume il y a 15 jours... Je ne suis plus enrhumée, mais depuis une semaine, je tousse.
Déshabillez-vous, je vais vous ausculter.
Question 13-14.
La veille de l'intervention chirurgicale.
Bonjour, monsieur Bernard. Tout va bien?
Oui, ça va. Mais comment va se passer l'intervention?
Donc, demain... On va vous poser un stimulateur cardiaque.
C'est un petit boîtier que l'on va vous placer sous la peau, du côté du cœur, sur votre poitrine. L'appareil, qui est muni d'une pile, va transmettre au cœur des impulsions électriques en continu. Vous verrez, vous vous sentirez mieux. Vous n'aurez plus vos malaises. Comme je vous l'ai dit lors de la consultation, cette intervention se fera sous anesthésie générale. Vous avez déjà fait le bilan sanguin et la radio des poumons. Le cardiologue passera en fin de soirée pour l'électrocardiogramme. Donc, pas d'inquiétude à avoir, tout se passera bien. À demain!
Question 15-16. En réunion, entre médecins. Donc, effectivement, c'est une dame qui ne devrait pas prendre de poids pour qu'elle améliore sa pression artérielle. Et il faudra surveiller de temps en temps sa cholestérolémie. C'est sur le poids que l'on va se focaliser, parce que le reste, pour l'instant, c'est bien contrôlé. D'où l'importance de me dire ce que tu m'as dit là. C'est une patiente sans syndrome métabolique qui a des facteurs de risque bien contrôlés. Bon, bien sûr, il faudrait qu'elle arrête de fumer. Pour qu'elle maigrisse, on propose une activité physique et la diététique. On va lui expliquer tout ça, ok? Il y a un terrain psychologique, en plus. Elle a vu le docteur Dupuis ou pas, cette dame?
Oui.
Ça s'est bien passé?
Oui, elle est déjà suivie, je crois, par un psychothérapeute.
Parfait. Donc, elle revient en hôpital de jour dans 3 mois. Elle voit son médecin traitant dans 1 mois. Il ne faut pas négliger la prévention en pneumo. Donc, Sylvie, tu mettras dans le compte-rendu poursuite du suivi psychologique, les séances de kiné et les examens à faire.
Question 17-18.
En réunion, entre médecin et infirmière.
Étant donné l'état de fatigue de Madame Durand, il faudra limiter les allées et venues dans sa chambre et également le temps de visite, surtout qu'elle n'est pas seule. Mais heureusement, l'autre patiente va bientôt rentrer chez elle et il n'est pas prévu de nouvelles rentrées d'ici lundi. Elle aura des nuits agitées en raison de ses troubles digestifs. Alors ne la réveillez pas quand elle dort. Deuxième écoute de la partie 3. Question 11-12. Chez le généraliste.
Bonjour madame.
Bonjour docteur.
Asseyez-vous. Avez-vous votre carte vitale?
Oui, la voici.
Si. Qu'est-ce qui vous amène?
J'ai des quintes de toux depuis plusieurs jours et j'ai l'impression d'avoir une pointe dans le dos.
Vous avez de la fièvre?
Non, je ne crois pas. Mais en fait, je ne l'ai pas prise.
Est-ce que c'est la première fois que cela vous arrive?
Non. J'ai déjà eu cela il y a 2 mois et vous m'aviez prescrit un expectorant.
Est-ce que vous fumez toujours?
Oui. Environ 15 à 25 cigarettes par jour.
Est-ce que c'est la fumée qui déclenche votre toux?
Non, pas vraiment. Je suis restée avec un gros rhume il y a 15 jours. Je ne suis plus enrhumée, mais depuis une semaine, je tousse.
Déshabillez-vous, je vais vous ausculter.
Question 13-14.
La veille de l'intervention chirurgicale.
Bonjour, monsieur Bernard. Tout va bien?
Oui, ça va. Mais comment va se passer l'intervention?
Donc, demain, on va vous poser un stimulateur cardiaque. C'est un petit boîtier que l'on va vous placer sous la peau, du côté du cœur, sur votre poitrine. L'appareil, qui est muni d'une pile, va transmettre au cœur des impulsions électriques en continu. Vous verrez, vous vous sentirez mieux. Vous n'aurez plus vos malaises. Comme je vous l'ai dit lors de la consultation, cette intervention se fera sous anesthésie générale. Vous avez déjà fait le bilan sanguin et la radio des poumons. Le cardiologue passera en fin de soirée pour l'électrocardiogramme. Donc, pas d'inquiétude à avoir. Tout se passera bien. À demain.
Question 15-16. En réunion, entre médecins.
Donc, effectivement, c'est une dame qui ne devrait pas prendre de poids pour qu'elle améliore sa pression artérielle. Et il faudra surveiller de temps en temps sa cholestérolémie. C'est sur le poids que l'on va se focaliser, parce que le reste, pour l'instant, c'est bien contrôlé. D'où l'importance de me dire ce que tu m'as dit là. C'est une patiente sans syndrome métabolique qui a des facteurs de risque bien contrôlés. Bon, bien sûr, il faudrait qu'elle arrête de fumer. Pour qu'elle maigrisse, on propose une activité physique et la diététique. On va lui expliquer tout ça, ok? Il y a un terrain psychologique en plus. Elle a vu le docteur Dupuis ou pas, cette dame?
Oui.
Ça s'est bien passé?
Oui, elle est déjà suivie, je crois, par un psychothérapeute.
Parfait. Donc, elle revient en hôpital de jour dans 3 mois. Elle voit son médecin traitant dans 1 mois.
Il ne faut pas négliger la prévention en pneumo. Donc, Sylvie, tu mettras dans le compte-rendu poursuite du suivi psychologique, les séances de kiné et les examens à faire.
Question 17-18.
En réunion, entre médecin et infirmière.
Étant donné l'état de fatigue de Madame Durand, il faudra limiter les allées et venues dans sa chambre et également le temps de visite, surtout qu'elle n'est pas seule. Mais heureusement, l'autre patiente va bientôt rentrer chez elle et il n'est pas prévu de nouvelles rentrées d'ici lundi. Elle aura des nuits agitées en raison de ses troubles digestifs, alors ne la réveillez pas quand elle dort. Fin de la partie 3. Vous avez 10 secondes pour contrôler vos réponses.
Partie 4. Vous allez entendre un extrait d'une interview d'un médecin sur la mucoviscidose. Vous allez entendre cette interview 2 fois. Pour chaque question 19 à 25, vous devez compléter les phrases en cochant sur la fiche la réponse A, B, C ou D qui vous paraît exacte. Vous avez 40 secondes pour lire les questions 19 à 25.
Tous les jours en France, un enfant naît atteint de la mucoviscidose. Plus de 6 000 malades sont soignés aujourd'hui. 2 millions de Français sont porteurs de cette maladie et peuvent la transmettre à leurs enfants. Docteur, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la mucoviscidose et comment elle se manifeste?
La mucoviscidose est une maladie génétique, toujours transmise conjointement, mais sans le savoir, par le père et la mère. Elle concerne aussi bien les garçons que les filles. Elle est présente dès la conception. En revanche, elle peut se manifester plus ou moins tardivement après la naissance. C'est une maladie chronique dont l'évolution varie d'une personne à l'autre. C'est une maladie grave, mais non contagieuse.
Quand a-t-on découvert cette maladie ?
Une étude récente situe l'origine de la maladie aux confins de la Turquie et de l'Irak, et on estime la naissance voici 5000 ans environ. La mucoviscidose se serait répandue au cours des siècles vers l'ouest, aurait ainsi atteint toute l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Australie, toutes contrées où se sont établis des Européens. Les premières descriptions apparaissent en 1936 sous la plume du professeur Fanconi. Il la caractérise et lui donne le nom de mucoviscidose. Il faut attendre 1953 pour que le professeur Dinsant Agnese propose un moyen de diagnostic encore utilisé, car seul spécifique de la maladie, le test de la sueur. Pratiqué dans un laboratoire spécialisé, le test de la sueur, parfaitement indolore, est conduit à deux reprises au minimum afin de confirmer les valeurs obtenues. Il s'agit de doser dans la sueur le chlore et parfois le sodium qu'elle contient. Les teneurs élevées confirment la suspicion de mucoviscidose. 1989 est une étape décisive, car on a enfin repéré l'anomalie génétique qui provoque la maladie. C'est une grande victoire à l'actif du professeur Lapchit Sui du Canada.
Quels sont les symptômes?
Chez le nouveau-né, un retard de rejet du méconium, première selle du nouveau-né, ne signifie pas nécessairement la mucoviscidose, mais constitue un élément de présomption. Une occlusion intestinale du nouveau-né est plus évocatrice, et il est fréquent de rencontrer cette infection chez le bébé atteint de mucoviscidose, 10% des cas. Une reprise de poids lente est aussi à prendre en considération. Il est communément admis que le bébé perde une fraction non négligeable de son poids dans les premiers jours de vie, 5 à 10%, et que le poids de naissance soit à nouveau atteint au bout de 8 à 10 jours, voire moins. Un bébé atteint de mucoviscidose peut mettre 12 voire 20 jours à reprendre son poids de naissance, signe à prendre en compte pour compléter le tableau clinique. Chez l'enfant, la courbe de poids reste inférieure à la normale. Il reste quelque peu chétif malgré un appétit vorace, il digère mal, il souffre de douleurs intestinales, il produit des selles particulièrement fétides, parfois abondantes et plutôt mousseuses. Encore quelques éléments qui tendent à retenir l'hypothèse du diagnostic de mucoviscidose. Il tousse et sa toux ressemble à celle de la coqueluche. Elle est sèche, répétitive et surtout épuisante. De plus, on trouve cette sueur salée. Autant de signes cliniques qui conduisent au diagnostic.
Existe-t-il un diagnostic anténatal?
Oui. Ce diagnostic s'adresse aux couples porteurs du gène et aux familles ayant déjà eu un enfant atteint de mucoviscidose. Il permet de déterminer de la 8e à la 10e semaine de grossesse, ou au plus tard à la 18e semaine, si l'enfant attendu sera malade ou non. Il appartient à chacun, en fonction de son éthique personnelle, de s'engager dans cette voie et de prendre position sur une éventuelle décision d'interruption de grossesse. Aujourd'hui, un tiers des malades ont plus de 18 ans. C'est une maladie qui provoque des troubles respiratoires et digestifs. L'accumulation du mucus visqueux obstrue les voies respiratoires et favorise les infections. Petit à petit, des lésions bronchopulmonaires apparaissent et conduisent à une insuffisance respiratoire chronique grave. Par ailleurs, en ce qui concerne les troubles digestifs, le pancréas ne fonctionne pas correctement. Tout petit, l'enfant doit apprendre à se battre pour respirer.
Merci, docteur, de m'avoir accordé cette interview.
Deuxième écoute de la partie 4.
Tous les jours en France, un enfant naît atteint de la mucoviscidose. Plus de 6 000 malades sont soignés aujourd'hui. 2 millions de Français sont porteurs de cette maladie et peuvent la transmettre à leurs enfants. Docteur, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la mucoviscidose et comment elle se manifeste?
La mucoviscidose est une maladie génétique, toujours transmise conjointement, mais sans le savoir, par le père et la mère. Elle concerne aussi bien les garçons que les filles. Elle est présente dès la conception. En revanche, elle peut se manifester plus ou moins tardivement après la naissance. C'est une maladie chronique dont l'évolution varie d'une personne à l'autre. C'est une maladie grave, mais non contagieuse.
Quand a-t-on découvert cette maladie?
Une étude récente situe l'origine de la maladie aux confins de la Turquie et de l'Irak, et on estime la naissance voici 5000 ans environ. La mucoviscidose se serait répandue au cours des siècles vers l'ouest et aurait ainsi atteint toute l'Europe, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord et l'Australie, toutes contrées où se sont établis des Européens. Les premières descriptions apparaissent en 1936 sous la plume du professeur Fanconi. Il la caractérise et lui donne le nom de mucoviscidose. Il faut attendre 1953 pour que le professeur Dinsant Agnese propose un moyen de diagnostic encore utilisé, car seul spécifique de la maladie, le test de la sueur. Pratiqué dans un laboratoire spécialisé, le test de la sueur, parfaitement indolore, est conduit à deux reprises au minimum afin de confirmer les valeurs obtenues. Il s'agit de doser dans la sueur le chlore et parfois le sodium qu'elle contient. Les teneurs élevées confirment la suspicion de mucoviscidose. 1989 est une étape décisive, car on a enfin repéré l'anomalie génétique qui provoque la maladie. C'est une grande victoire à l'actif du professeur Lapchit Sui du Canada.
Quels sont les symptômes ?
Chez le nouveau-né, un retard de rejet du méconium, première selle du nouveau-né, ne signifie pas nécessairement la mucoviscidose, mais constitue un élément de présomption. Une occlusion intestinale du nouveau-né est plus évocatrice, et il est fréquent de rencontrer cette infection chez le bébé atteint de mucoviscidose, 10% des cas. Une reprise de poids lente est aussi à prendre en considération. Il est communément admis que le bébé perde une fraction non négligeable de son poids dans les premiers jours de vie, 5 à 10%, et que le poids de naissance soit à nouveau atteint au bout de 8 à 10 jours, voire moins. Un bébé atteint de mucoviscidose peut mettre 12 voire 20 jours à reprendre son poids de naissance, signe à prendre en compte pour compléter le tableau clinique. Chez l'enfant, la courbe de poids reste inférieure à la normale. Il reste quelque peu chétif malgré un appétit vorace, il digère mal, il souffre de douleurs intestinales, il produit des selles particulièrement fétides, parfois abondantes et plutôt mousseuses. Encore quelques éléments qui tendent à retenir l'hypothèse du diagnostic de mucoviscidose. Il tousse et sa toux ressemble à celle de la coqueluche. Elle est sèche, répétitive et surtout épuisante. De plus, on trouve cette sueur salée. Autant de signes cliniques qui conduisent au diagnostic.
Existe-t-il un diagnostic anténatal ?
Oui. Ce diagnostic s'adresse aux couples porteurs du gène et aux familles ayant déjà eu un enfant atteint de mucoviscidose. Il permet de déterminer de la 8e à la 10e semaine de grossesse, ou au plus tard à la 18e semaine, si l'enfant attendu sera malade ou non. Il appartient à chacun, en fonction de son éthique personnelle, de s'engager dans cette voie et de prendre position sur une éventuelle décision d'interruption de grossesse. Aujourd'hui, un tiers des malades ont plus de 18 ans. C'est une maladie qui provoque des troubles respiratoires et digestifs. L'accumulation du mucus visqueux obstrue les voies respiratoires et favorise les infections. Petit à petit, des lésions bronchopulmonaires apparaissent et conduisent à une insuffisance respiratoire chronique grave. Par ailleurs, en ce qui concerne les troubles digestifs, le pancréas ne fonctionne pas correctement. Tout petit, l'enfant doit apprendre à se battre pour respirer.
Merci, docteur, de m'avoir accordé cette interview.
Fin de la partie 4. Vous disposez de 8 minutes pour reporter vos réponses sur la fiche de réponse. Vous avez encore une minute. Fin de l'épreuve.